Alors, on va parler d'amour. On va parler à partir d'un livre que j'ai oublié d'emmener, je voulais vous le montrer. Ça s'appelle Les cinq langages de l'amour, alors de Gary Chapman. Je voulais savoir si dans la salle, il y a des gens qui l'avaient lu. Oui, donc ça ne m'étonne pas. Voilà, c'est un livre qu'on a lu, Françoise et moi, il y a quelques années, qui nous a marqués. Mais en fait, on ne l'a pas lu ensemble. Parce que souvent, quand on lit un livre, on est tout seul. Et puis, on en partage les bonnes feuilles avec notre conjoint. En fait, le conjoint, parfois, le lit quelques mois plus tard. Et en fait, on rate le but du livre. Parce que le but du livre, en fait, c'est changer nos habitudes concrètement. Et donc, il nous a paru intéressant, dans le cadre d'Agapé Famille, de travailler sur ce thème et puis d'inciter les gens à faire un atelier pratique, juste à la suite de notre intervention, qui résume, qui synthétise un petit peu ce bouquin. Alors, en fait, ces langages de l'amour, ça s'exerce dans le cadre du couple, mais ça peut bien sûr s'exercer avec nos proches proches, avec les gens avec qui on est intime. Alors dans la famille, ça peut être entre parents et enfants, ça peut être entre nous et nos parents, ou quand on est en colocation avec son coloc ou sa coloc. Enfin bref, il y a de multiples occasions de travailler sur ce thème avec des gens qui nous sont très proches. Donc en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est voir un petit peu ces cinq langages de l'amour. Et pour ceux qui ont raté la séance, de l'écouter sur notre site. Et puis dans la semaine, alors ça va peut-être être compliqué pour le groupe du mardi parce que ça veut dire qu'il y a 2 jours pour travailler, mais je vais vous donner un devoir à faire. C'est-à-dire en fait une petite feuille de 2 pages, je crois, 2-3 pages, qui vous incite à travailler avec un binôme, en binôme, avec quelqu'un qui vous est très proche et très cher, et vous allez travailler sur ce thème des langages de l'amour. Parce que le fond de l'affaire, c'est qu'on a tous au moins un langage de l'amour, peut-être deux, mais il y en a toujours un qui est prépondérant, et souvent on exprime son amour à l'autre. Par son propre langage d'amour, qui malheureusement n'est pas forcément celui de l'autre. D'où un tas de dysfonctionnements qu'on va voir. Alors, je vais essayer de démarrer mon PowerPoint. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais qu'on s'interroge sur les ingrédients d'une relation durable. À votre avis, c'est vous qui allez répondre, qu'est-ce qui fait que dans le temps, un couple, par exemple, dur. Le dialogue, ouais. L'amour, bien sûr. Le respect, très important. Tout à fait. La vérité. Quelqu'un a dit l'argent? Pas sûr. La manière de gérer l'argent, oui, ça, voilà. On va préciser la pensée de Gris. La fidélité, ça revient. Pardon? L'intégrité. Donc, ça fait pas mal, hein, déjà, de pistes. Et c'est peut-être aussi d'avoir des projets. Alors, on trouve plein de bouquins, de livres qui donnent des recettes, sans une recette pour entretenir son couple. Et Gary Chapman, il propose une autre méthode, celle qui consiste à rechercher le langage d'amour de l'autre et de le pratiquer, afin de le pratiquer. C'est comme une langue étrangère. Si vous avez 2 langages différents avec vos proches, vous allez exprimer votre amour dans votre langue, et qui va pas forcément être perçu correctement par l'autre. Et donc, l'idée, c'est déjà de réfléchir sur soi-même, c'est-à-dire quel est notre langage d'amour préféré. On va en voir qu'il y en a 5, d'après Gary Chapman, et surtout de comprendre celui de l'autre et d'apprendre à le pratiquer. C'est comme si j'essayais d'apprendre l'anglais. Je suis pas doué en langue, mais si Françoise parle l'anglais, faut que je communique dans sa langue et qu'elle communique dans la mienne. Ces langages de l'amour, en fait, il y en a cinq, et d'après Gary Chapman, ils sont acquis dès l'enfance, au contact des parents, et à l'âge adulte, on a tendance à reproduire ces schémas affectifs. Qu'est-ce qui se passe dans la vie classique d'un couple, par exemple? Ben, il y a d'abord un état amoureux fusionnel, c'est ce que j'appellerais l'amour-passion. Pendant cette période, on considère l'autre comme parfait, on pense que même si dans le futur nous aurons des petites tensions, on sera assez raisonnable pour les résoudre, et ce sentiment amoureux enferme le couple dans une bulle. Mais être amoureux, par exemple, ne signifie pas aimer, car l'amour demande un travail sur soi et un travail avec l'autre. Il y a quatre raisons. L'état amoureux ne procède pas d'une décision volontaire. On dit bien qu'on tombe amoureux. On ne le fait pas exprès, on tombe amoureux. Cela nous tombe dessus. Deuxième raison, il ne nécessite aucun effort. Il nous fait accomplir parfois des choses folles pour l'autre. Quand on est dans les premiers mois, comme ça, on peut faire des choses assez extraordinaires. Des sacrifices, partir faire un voyage pour rejoindre l'autre, etc. Troisième raison, il n'est pas soucieux du développement personnel de l'autre. Il n'y a pas de projet. Par exemple, au début, il n'y a pas de projet d'enfant. On est déjà arrivé au but. C'est le nirvana, comme on dit. Et puis, quatrième point, qui est très important sur le plan psychologique, c'est que l'autre est l'objet de notre amour et non pas le sujet d'une relation. Une relation qu'il faut construire et à laquelle il faut travailler. Si vous vous intéressez à la vie des artistes, cinéma, chansons, etc., vous apercevez que beaucoup d'entre eux veulent vivre à 100% leur vie, à fond, et ils ont souvent ce type de relation, passion. Et cette passion, au bout de... Alors, il y en a qui ont des idées très préconçues sur la durée, moi j'en ai pas, mais enfin ça peut durer une semaine, un mois, un an, 10 ans, mais en tout cas 10 ans peut-être pas, hein. On dit en général que ça s'arrête au bout de 2 ans. Mais il n'y a que cette phase-là qui les intéresse, donc quand cette phase-là s'arrête, eh bien, ils se séparent, et donc ils recommencent une nouvelle relation, et ils finissent souvent leur vie pathétiquement seuls, parce qu'ils n'ont pas compris que une relation, ça se construit. Alors, est-ce qu'il ne reste que deux solutions? Soit vivre une vie minable avec son conjoint, ou l'autre solution que beaucoup pratiquent, c'est se séparer pour retrouver une nouvelle relation sentimentale. Alors, il est intéressant de répondre à cette question, d'examiner une idée reçue qui consiste à croire que pour les personnes qui entament une deuxième relation, qu'ils pensent durable, fortes de leur expérience, vont réussir dans cette deuxième relation. Mais, en fait, les statistiques prouvent le contraire. Aujourd'hui, alors ce sont des moyennes mondiales, dans les pays occidentaux. 40% des mariages finissent par un divorce. 60% des remariages finissent par un divorce. Et 75% des remariages finissent par un divorce. En France, les chiffres sont plus élevés, en tout cas pour les remariages et les remariages. J'ai entendu ça il y a quelques jours. C'est à peu près 80 de mémoire. Hein, je n'ai pas noté sur le coup. J'ai dit, tiens, ça c'est intéressant. C'est 80% des remariages finissent par un divorce. Et apparemment, 95% des remariages finissent par un divorce. Alors, bien sûr, il y a aussi les gens qui réussissent. Et on en connaît des gens qui ont pu avoir pris conscience d'un certain nombre de choses et qui ne reproduisent pas dans leur première union les mauvaises habitudes qu'ils avaient et donc qui réussissent. Enfin, vous vous rendez compte quand même que les statistiques sont pas en faveur du divorce. Proverbe 5:18. C'est un de mes versets préférés. Fais la joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Ça, c'est la perspective biblique. Et moi, je vais vous faire une confidence. J'ai une photo de Françoise dans mon portefeuille quand on s'est rencontrés. Et j'y tiens beaucoup. Parce qu'elle me rappelle ce verset. Il se trouve que j'en avais une. Et un jour, en voyage, dans la cathédrale de Cologne, On m'a piqué mon portefeuille. C'est la seule fois de ma vie où on m'a volé mon portefeuille et c'était en Allemagne alors que je pensais que j'étais dans un pays raisonnable et sûr. Alors que quand je vais en Italie, par exemple, je fais très attention. Bon, en Italie, j'ai jamais eu de problème. Et j'étais très peiné, en fait, surtout pour ça. Bon, on avait des ennuis avec les cartes bleues, etc. Je dis pas en voyage, c'est un peu compliqué de continuer. On n'avait qu'une carte bleue pour deux, donc on n'avait plus de sous a priori. Enfin bon, comme je suis un mec prudent, j'avais mis de l'argent sur le compte de Jean-François qui à l'époque avait 17-18 ans, peut-être un peu moins, je sais plus. Et on s'en est tiré avec ça. Enfin, ça a été un peu compliqué. Et il se trouve que au décès de mon beau-père, rangeant ses affaires, j'ai retrouvé pratiquement la même photo à la même époque. Alors donc j'ai toujours une photo de Françoise jeune. Alors il s'agit désormais de regarder comment évolue la deuxième phase justement, l'amour-raison. Alors vous voyez, j'ai pas trouvé vraiment un dessin très positif sur l'idée que bah, l'amour-raison, faut que la cervelle s'en mêle. Mais bon, c'est un peu l'idée qu'il faut associer raison et sentiment. Alors, est-ce que ceux qui ont lu le bouquin, est-ce que vous vous rappelez des cinq langages? Alors, Françoise, tu es hors classe là. Oui, parce que. Alors. Tout à fait. Ouais. Ouais. Ah, c'est déjà bien, 3 sur 5. Les cadeaux, ouais. Et les moments de qualité, très bien. Voilà. Alors, on va balayer les 5. Alors, je ne sais pas si. Les paroles valorisantes. Donc, c'est Salomon qui dit dans Proverbe 12, 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Alors, il s'agit pas. Oui, alors ça c'est mes cinq. Voilà, les paroles valorisantes. Voilà. Il s'agit pas de flatter son conjoint, mais de l'encourager à agir pour son bien. Les personnes qui ont comme langage d'amour les paroles valorisantes, elles ont besoin souvent que l'autre les rassure. Alors ça peut être le physique, l'intelligence, la perspicacité, la créativité. Enfin, tous les domaines où notre conjoint peut sembler manquer de confiance. En fait, l'idée, c'est de remplir son réservoir émotionnel en remarquant aussi les domaines où il excelle. Il ne s'agit pas non plus de faire pression pour qu'il se lance dans ce que vous désirez qu'il ou qu'elle fasse. Exemple, Françoise voudrait que j'accroche enfin ses photos sur les murs au lieu de les laisser traîner sur le buffet. Et pourquoi je ne le fais pas, c'est que j'ai horreur de faire des trous dans les murs. J'ai toujours peur de mal faire, ça marche pas. Alors, elle constate donc que je le fais pas, malgré qu'elle me le demande gentiment plusieurs fois. Alors, au lieu à un moment de s'énerver et de me dire, bon, alors, quand est-ce que tu le fais? Elle va jouer une corde sensible chez moi, c'est que j'ai horreur du désordre. Or, bah, les cadres photos, voilà, ils traînent, ils sont là, entassés, ils prennent la poussière. Et elle va me dire, bah, tiens, ça serait bien que les cadres soient sur les murs, parce que comme ça, moi, ça ne traînerait pas sur le buffet. Et donc, vous voyez qu'il s'agit, c'est un peu de la manipulation peut-être, mais non, c'est plutôt, voilà un projet qui est positif pour toi, ça va. Effectivement, tu vas te sentir plus confortable dans cette pièce. Autre cas type de nos sociétés occidentales, la perte de poids. Si votre conjoint se plaint d'avoir des kilos en trop, il faut être prudent, car il y a deux sortes d'encouragement. Celui qui fait naître ou augmenter la culpabilité du conjoint, qui avait exprimé un vague regret, mais pas une volonté expresse de maigrir. Celui qui encourage au contraire le conjoint qui essaie vraiment à atteindre cet objectif et verra cet encouragement porter du fruit dans sa vie. Donc tout est question de communication. Plus précisément, notre encouragement doit s'appuyer sur sa vision du monde et non la nôtre. Et ça veut dire qu'il faut se déporter de soi et comprendre l'univers émotionnel de notre proche. Ça peut être le cas, bien sûr, pour un conjoint, mais ça peut être aussi le cas, je le dis bien, pour des proches, nos enfants, par exemple. Donc, il faut apprendre en communiquant quelle est la vision que notre proche a. L'amour est aimable. Nous devons donc employer des mots et un ton aimable plutôt que dire « bah évidemment, tu veux maigrir si tu risques pas de le faire, si tu n'arrêtes pas de mettre du fromage sur du beurre sur du pain à la fin de chaque repas. » L'amour formule des requêtes et non des exigences. L'exigence s'éloigne car elle concerne un rapport de puissance. Parent-enfant, employeur-employé, elle ne devrait pas être présente dans la relation entre deux proches. Quand on exprime un désir à l'autre, on le valorise. La requête laisse le libre choix à l'autre, car l'amour résulte toujours d'un choix. Alors, il se peut que vous ayez du mal à exprimer à votre vis-à-vis votre appréciation, pour une raison ou pour une autre. Ça peut être de la pudeur, ça peut être un reste d'orgueil, ça peut être une attitude négative du conjoint. Alors, une solution consiste, par exemple, les deux arrivent, exprimer votre appréciation à des proches, donc les enfants, la belle-mère, les amis, les voisins, parce qu'à ce moment-là, le proche, il va finir par en entendre parler, il va dire, ah tiens, eh ben, il m'apprécie quand même, ou elle m'apprécie quand même. Deuxième solution, si vous ne savez pas parler, vous pouvez écrire une lettre. Dans nos week-end couples, Vincent hoche la tête, on fait écrire une lettre d'amour à notre conjoint. Alors, c'est toujours surprenant pour certains, surtout les hommes sont terrifiés d'avoir à exprimer leurs sentiments par écrit, mais c'est un bon exercice, parce qu'en fait, ça permet de faire la synthèse. Mais pourquoi j'aime encore cette personne? Qu'est-ce que j'apprécie? Et donc, on est dans le domaine des paroles valorisantes. Pour les 45 ans de Françoise, je lui avais offert une montre. Je pense que c'est toi qui voulais une montre, me semble-t-il. J'ai dit, bon, bah, j'ai acheté une montre, d'accord. Et puis, bah, l'envie m'a pris de lui faire un poème. Bon, ça fait 15 ans, hein, depuis, j'en ai pas refait, hein, mais bon, pour dire que je suis quand même pas un grand poète, hein. Mais j'avais à cœur, en fait, d'exprimer les choses difficiles à dire. Notamment, comme il y avait, bon, c'était un truc qui mesure le temps, j'avais exprimé mes regrets d'avoir laissé beaucoup de temps patiner notre relation. Voilà. Donc c'était une façon poétique, sentimentale, voilà, de lui dire cela. Les quiproquos sont nombreux dans le domaine des paroles valorisantes. Voilà une idée, enfin un exemple. Bonne nuit, mon amour, dors bien, faites vos rêves. Et l'homme qui dit « Je ne supporte pas que tu me dises toujours ce que je dois faire. » Ça, c'est typique du fait que cette dame, son langage d'amour, c'est les paroles valorisantes, et donc elle veut communiquer à son mari dans ce registre, et son mari ne comprend rien. Et donc, c'est ça le fond de l'affaire, c'est souvent qu'on est déçu dans notre relation avec soit notre conjoint, soit avec des proches, c'est qu'on parle notre langage d'amour et que l'autre le reçoit pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Ah, celui-là, c'est qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Mais pourquoi elle me dit toujours ce que je dois faire? Donc, il faut que cette dame, elle apprenne à ne pas pratiquer son langage d'amour avec son mari, mais qu'elle trouve le langage d'amour de son mari. Alors, si c'est les services rendus pour cet homme, c'est de lui donner du Temesta ou je sais pas quoi, enfin... un somnifère quelconque, là, il sera content. Ah oui, elle a pensé à moi, elle a préparé un somnifère pour que je passe une nuit, enfin, c'est peut-être pas une bonne nuit, mais enfin, une grande nuit. Voilà. Voyez le fond de l'affaire. Et donc, on a tous à progresser dans ce domaine. Pour revenir à la parole de Dieu, vous avez dans Proverbe 31, on parle de la femme de valeur, dont le mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Comment cette description se finit-elle? C'est Proverbe 31-28, ses fils se lèvent et la disent heureuse, sur la parole, la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. J'aime beaucoup ce verset. Alors, deuxième chose, c'est les moments de qualité. Alors, les moments de qualité, c'est un moment d'attention totale, sans partage avec une autre activité, ou dans le cadre d'une activité, mais on en reparlera, c'est par exemple pas regarder la télévision ensemble, sauf si le but c'est de vraiment se parler. Par exemple, hier soir, on a regardé en replay, parce que c'était les derniers moments, une émission sur Brassens. On aime beaucoup Brassens. Bon, c'est pas vraiment un chrétien type, hein, mais il a quand même des valeurs. Il a une façon, avec ironie, de voir la petitesse des êtres humains, le péché en fait, qui nous plaît. Et donc, ça nous a permis de communiquer, de se rappeler en plus des souvenirs de notre jeunesse. Ouais. Gary Chapman évoque le cas classique du mari qui travaille beaucoup. Ça, c'est américain, hein. Les hommes qui travaillent beaucoup. Donc, l'épouse au foyer qui a rien à faire, qui attend son mari désespérément tous les soirs, très tard, et elle se plaint qu'il ne lui consacre pas assez de temps. Donc, son langage d'amour, elle, c'est justement les moments de qualité. Et elle considère le travail de son mari comme un ennemi de son couple. Lui est frustré car il considère que il est sur le registre des services rendus. Son ardeur au travail, c'est l'expression de son amour pour lui et sa famille. Il veut les mettre à l'abri du besoin, etc., etc. Ce qui prouve qu'en fait, toujours pareil, c'est un problème de ratage de cible, souvent, de nos dysfonctionnements. Ratage de cible. Alors, Gary Chapman a suggéré au mari de faire une liste des revendications, entre guillemets, de son épouse en termes de moments de qualité. Donc, je sais pas, concert, week-end à deux, pique-nique en famille, bah, etc. Et puis, il lui a recommandé de s'organiser, puisque c'est quelqu'un qui est dans le work addict, donc c'est quelqu'un qui planifie, etc. Il lui a dit, bah, vous avez profité de votre façon de penser pour planifier de réaliser un souhait par semaine. Et donc le gars, il s'est organisé effectivement pour par semaine avoir un pique-nique ou une balade ou un concert, etc. Et en quelques semaines, la situation s'est normalisée. Et quelques années plus tard, quand le mari a créé sa propre entreprise, où bien sûr il était question de beaucoup de travail, bah, sa femme l'a épaulé pleinement. Un moment de qualité est soit de se parler en ne faisant que cela, soit d'avoir une activité ensemble en veillant à accorder de l'attention à l'autre. Par exemple, le voyage ou la promenade en forêt, par exemple, est propice à la discussion. Nous, quand on part au sable, on a 1 heure et demie de route. Et souvent, on s'aperçoit que dans la semaine, on n'a pas vraiment eu le temps de se parler cœur à cœur. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais le fait de se déplacer dans un train ou dans une voiture, etc., ça libère l'esprit des contraintes quotidiennes. Et c'est à ce moment-là qu'on peut plus échanger sur le plan émotionnel. Autre point, un moment de qualité signifie une écoute attentive des besoins de l'autre, dans le but de comprendre les pensées, les sentiments, les désirs de son vis-à-vis. Et apprendre à écouter peut s'avérer difficile. Souvent, moi je me rappelle au début de notre relation, et des fois ça me reprend, Françoise me dit quelque chose sur le plan émotionnel, et hop, je reprends la main, et paf, je repars dans mon univers à moi. Et donc, en fait, un moment de qualité pour quelqu'un qui est sensible, c'est vraiment d'être écouté. Alors, des conseils pour une écoute active, c'est maintenir un contact visuel avec l'autre, ne rien faire d'autre en écoutant, être à l'affût des sentiments qu'exprime mon partenaire à travers ses paroles. Et quand vous pensez les avoir saisis, demandez-lui si votre découverte correspond bien à ce qu'elle ressent. C'est-à-dire, reformulez ce qu'elle a voulu vous dire pour voir si vous n'êtes pas trompé dans votre interprétation. Être attentif aussi au langage du corps, qui parfois n'est pas en accord avec les propos. Se garder d'interrompre l'autre, c'est-à-dire éviter de se défendre, de justifier son comportement, son point de vue. L'important étant de comprendre vraiment l'autre. Alors, l'activité de qualité. On a parlé pour l'instant de moments de qualité, mais si celui ou celle dont c'est le langage d'amour favori goûte particulièrement une activité, jardinage par exemple, ou la balade en vélo, eh bien l'autre peut décider de l'accompagner pour partager ce moment avec lui ou avec elle, parce qu'elle est dans une activité plaisante qui va lui permettre de se libérer au niveau émotionnel. Et il s'agit d'un investissement utile pour notre relation. Alors, troisième sujet, c'est des cadeaux. Lorsqu'on observe les pratiques liées aux relations interpersonnelles et plus précisément au mariage dans les différentes cultures, on constate que la pratique des cadeaux, c'est une pratique universelle. Ouh, je vais revenir en arrière. Cadeaux de bienvenue, d'anniversaire, de remerciement, de manifestation d'amour et de reconnaissance, ou tout simplement pour faire plaisir. C'est quand même le langage d'amour par excellence. Quand Françoise et moi, on regarde notre intérieur, il y a des objets qui sont des cadeaux offerts par des gens. Et on se rappelle précisément de qui il s'agit. Je prends un exemple tout bête. On a un plateau pour débarrasser, un plateau en plastique bleu, très joli. Et je me rappelle toujours, c'est nos amis de Lyon, Eric et Régine, qui nous l'ont offert. Et il nous sert depuis 20 ans. Enfin, je pense que c'était il y a 20 ans. Et donc, ce qui touche dans les cadeaux, c'est qu'on a touché droit au but. Cécile, notre fille, elle est comme ça. Elle aime faire des cadeaux. C'est son langage d'amour. Et elle sait choisir le cadeau. On a élevé nos trois enfants, on espère, de la même façon. C'est pas sûr, mais bon. Jean-François, c'est pas du tout ça. Il sait pas faire des cadeaux. Alors, quand il veut nous faire un cadeau, il nous téléphone, il nous envoie un message, et il nous dit, qu'est-ce que vous voulez quand je vous offre? Bon, donc, c'est pas son langage, il est pas doué là-dedans. C'est pas grave, chacun est différent. Et puis, c'est vrai qu'on regarde avec tendresse ces cadeaux offerts par nos enfants, même les plus improbables, fabriqués à l'école, pour la fête des pères, des mères, vous connaissez sans doute ça. La valeur marchande, en fait, est très secondaire par rapport au geste. C'est vrai. Donc, ne pas considérer que si vous découvrez que votre proche, son langage d'amour, c'est les cadeaux, d'ailleurs, ça y est, c'est la ruine assurée. Non, non. Ça peut être des choses très, très simples. Hein. C'est vraiment important de penser à ça. Et puis, pour celui dont c'est le langage d'amour, le cadeau a une grande importance et son absence aussi. Parce qu'il va interpréter le fait que vous n'êtes pas tellement important si vous ne faites pas des petits cadeaux de temps en temps. Si vous découvrez que votre conjoint possède son langage et vous n'êtes pas doué pour faire les cadeaux, vous pouvez observer ce qu'il ou elle offre elle-même aux autres. Parce que quelqu'un dont c'est le langage d'amour pratique souvent l'offre de cadeaux. Qu'est-ce qui a fait particulièrement plaisir dans le passé que vous avez offert, et donc vous pouvez penser vous faire aider aussi par quelqu'un qui connaît bien votre proche. Alors ça peut être des choses très simples, un bijou fantaisie, un mug, un livre, un CD, un produit de beauté, un CEO, n'importe quoi. L'important, c'est vraiment l'intention qui compte. Alors voilà un petit verset illustré, Proverbe 11:25, l'âme généreuse sera comblée, celui ou celle qui arrose sera aussi arrosé. Et donc c'est un retour sur investissement dont on parle ici le verset, c'est-à-dire que si vous savez parler le langage d'amour qui sera le cadeau, l'autre personne vous appréciera davantage et votre relation sera plus enrichissante. Les services rendus. Alors ça, c'est mon langage d'amour, donc je suis intarissable là-dessus. Certaines personnes sont particulièrement sensibles aux services rendus. Alors vous voyez, j'aime bien ce petit logo là, qu'on a utilisé, je crois, au niveau de l'église, mais je suis pas sûr. Ouais. Alors, hop, voilà. Le service, l'esprit de service. Donc, cuisiner, mettre la table, laver la vaisselle, passer l'aspirateur, repasser la pile de linge. Bien sûr, il faut qu'il soit accompli dans un état d'esprit positif. Si vous le faites en râlant, ça va pas marcher. On parle souvent dans nos week-ends et nos journées de couple de l'esprit 50-50. Tu fais ma part, je fais ta part. Dans le couple, ça ne marche pas. Un exemple parfait nous est donné dans le Nouveau Testament. Nous voyons que Jésus lavait les pieds de ses disciples. Geste défoulu, en principe, aux serviteurs de la maison. Dans toutes les sociétés, les grands gouvernent les petits. Et Jésus inverse cette hiérarchie en demandant aux grands de servir les petits. Paul dit aux Galates, par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Alors, un autre thème, attention aux stéréotypes et aux héritages familiaux. Il arrive souvent que dans le mariage notamment, ou dans la vie en commun qu'on fait avec quelqu'un avec qui on est, qu'on apprécie, qu'on se met en colocation, il arrive qu'on soit désappointé par le changement de situation. Si on prend le cas traditionnel de l'épouse, avant, quand on est fiancé, on partage toutes les tâches matérielles, on fait la vaisselle, la cuisine, etc. Et puis, on s'installe dans la vie classique du couple, et à ce moment-là, tiens, comme par hasard, c'est madame qui doit faire tout le boulot. Et donc, en fait, on reproduit souvent, au début de notre vie commune, le modèle de nos parents inconsciemment. Et ça peut être un gros écueil. Mais l'amour ne peut être contraint. Donc, il va falloir apprendre à bien communiquer avec votre conjoint sur ce que cela signifie pour vous en particulier. Par exemple, ça peut être garder la chambre en ordre. C'est un petit service bon, qui n'est pas extraordinaire, mais ça peut être très apprécié plus qu'un cadeau de grande valeur. Formuler cela en termes de désir plutôt que d'exigence, montrer que ces gestes du quotidien vont remplir votre réservoir émotionnel. Souvent d'ailleurs, les critiques formulées par l'autre permettent de découvrir quel est son langage d'amour. Si par exemple votre vis-à-vis vous reproche de ne jamais descendre la poubelle, vous occuper de la poubelle, il y a de fortes chances que ça soit son langage d'amour. Et donc, il est vain de la combler de cadeaux si c'est en fait son langage. On a tous besoin de souplesse quand notre conjoint aussi nous demande d'accomplir quelque chose qui ne va pas dans le sens, qui va dans le sens de son langage d'amour, mais qui semble contrecarrer la vision, les stéréotypes dont on parlait plus haut, que nous avons de notre rôle dans le couple. Par exemple, les messieurs, en général, ils font pas le repassage. Bon. Moi, je fais le repassage. C'est pas pour me mettre en l'air, mais si je veux avoir des chemises repassées, il faut de toute façon que je m'y mette. Mais je trouve ça normal. Pourquoi faudrait-il que les femmes repassent? Surtout que c'est en général assez lourd les fers. Enfin bon, ça va mieux maintenant, mais c'est pas forcément quelque chose de très voilà. Il faut savoir sortir des représentations traditionnelles. Alors ensuite, on a le toucher physique. On sait depuis longtemps que l'enfant qui a des parents câlins et embrassants aura un développement plus équilibré que celui qui a été privé de contact physique. On trouve aussi au 1er siècle un signe de l'importance du toucher physique dans l'évangile de Marc. Vous savez, à un moment donné, si vous voulez vérifier plus tard, c'est dans Marc 10, 13. Le narrateur rapporte que des Juifs amenèrent des petits-enfants à Jésus pour qu'il les touche. Et donc la bénédiction vient du toucher, ainsi que la guérison. Marc 5, 25, la femme atteinte d'hémorragie qui se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. Le toucher physique est un puissant moyen de communication et bien sûr de communication de l'amour. Mais donc un conjoint dont c'est le langage d'amour peut le vivre de manière multiple. Ce peut être simplement les rapports sexuels, on y pense bien sûr, mais ça peut être bien autre chose. Ça peut être les baisers, ça peut être juste des caresses non intentionnelles, ça peut être des massages du dos, des pieds, du cuir chevelu. Enfin bref, un simple contact physique. Et là aussi, il faut communiquer dans cette affaire. François, c'est son deuxième langage après les paroles valorisantes. Et en fait, j'ai dû apprendre à la toucher, mais de façon non intentionnelle, parce qu'au début de notre relation, bien sûr, j'avais très envie de la toucher pour des choses intéressées, et il a fallu que j'apprenne à, en fait, il a fallu que je me calme et puis que j'apprenne à toucher de façon désintéressée. Par contre, elle, dans ses langages d'amour, elle aime bien aussi me faire des gestes de tendresse, me toucher, et moi. Si elle me prévient pas, bah je sursaute. Qu'est-ce qu'elle me veut? Et en fait, on a analysé, parce que c'est bien de vivre instinctivement, mais vaut mieux réaliser et comprendre, c'est que quand j'étais petit, soit mon père, soit ma mère, des fois me tombaient dessus sans prévenir, pour me mettre une raclée. Et donc depuis, je suis un peu traumatisé, hein, je pense. Donc quand on me touche, il vaut mieux d'abord me le dire. Je vais, alors François, des fois, il dit, quand elle arrive par derrière, attention, Jean-Paul, je vais te faire une caresse. Voilà, c'est idiot, mais voilà, il faut communiquer parce qu'on a tous nos limites et voilà. Et donc, on apprécie beaucoup mieux maintenant nos touchés physiques. Alors, conclusion. Vous vous rappelez que j'ai dit qu'on allait travailler sur faire un atelier pratique. Alors, comment ça va se passer? Alors, pour le groupe du mardi, c'est peut-être un peu chaud de le faire mardi parce que je vous demandais de travailler 30-40 minutes en couple. Donc ça, vous verrez entre vous si vous pouvez le faire cette semaine ou la semaine prochaine. Pour nous, jeudi, on a un petit peu plus de temps. Je vais envoyer par mail cet après-midi dans ce petit questionnaire. Pour ceux qui n'ont pas écouté le message, bien sûr, je vais leur dire de... Il faudrait que tu le mettes cet après-midi, si ça ne te dérange pas. Non, tu peux pas. Bon, demain matin. D'accord, ok, demain matin, ça ira. Pour pouvoir se mettre dans le bain. Plus important, est-ce que vous allez échanger et construire à travers ce projet ? Dans un premier temps, il s'agit de découvrir votre langage d'amour dominant, car il peut y en avoir plusieurs, bon, on vous demandera de travailler que sur le dominant, et celui de votre conjoint ou de votre proche. Puis dans un deuxième temps, de réfléchir à comment exploiter cette connaissance et par quels moyens pratiques passer pour répondre mieux aux attentes de l'autre. Si vous débutez complètement, je le remettrai, je pense, dans le texte, si vous débutez complètement dans cette réflexion, vous essayerez de vous souvenir de certains épisodes marquants dans votre vie commune, aussi bien les positifs que les négatifs. Pour votre langage personnel en positif, quand avez-vous particulièrement apprécié l'attitude de votre proche, de votre vis-à-vis, dans quelles circonstances? En fait, l'idée, c'est de prendre des décisions, de changer ses habitudes. L'amour doit conduire à prendre la décision de changer ses habitudes et de chercher à parler le langage d'amour de notre vis-à-vis. Le but recherché n'est pas notre propre satisfaction, mais il est de remplir le réservoir émotionnel de l'autre qui, en retour, cherchera à faire de même. Il s'agit donc d'entrer dans un cercle vertueux par une prise de décision. Pour ce qui concerne les couples, beaucoup après la période de l'amour fusionnel retrouvent la réalité, qui peut être dure. C'est à ce moment-là que si on n'apprend pas le langage de l'amour de l'autre, on peut passer à côté d'une relation pleine de richesse et de dynamisme. C'est pourquoi l'enjeu est très important. Alors, on pourra donc, après avoir fait ce petit exercice en groupe de maison, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, bah, partager un peu ce qu'on a découvert ou redécouvert. Moi, je trouve que ça sera... Oui. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Je l'envoie à tout le monde, oui. Tout à fait, tu as bien fait de le dire. Donc voilà, à vous de jouer. Et puis je vous souhaite de prendre des décisions qui enrichissent votre relation.